Chaque matin, j'emportais toutes mes affaires dans la salle à manger, ce qui faisait plaisir à maman. Et vers la fin de l'après-midi, je les remettais dans le salon, à la grande satisfaction de papa lorsqu'il rentrait du bureau. Mes affaires, c'était des livres, des articles et des photos que je découpais dans les magazines et que je rangeais avec application dans de grands albums. Des feuilles de cahiers aussi, sur lesquelles je notais de belles et édifiantes pensées, ainsi que les idées plus ou moins farfelues qui germaient puis s'épanouissaient dans ma tête. Parce que, en effet, tout petit déjà, j'aimais beaucoup lire. Je parlais d'ailleurs souvent à mes proches de « mes amis les livres ». Et j'écrivais volontiers. Il fallait donc bien trouver une place pour entreposer ce fatras sans cesse en partance que j'accumulais au jour le jour. Seulement, la maison n'était pas extensible. Et mes parents m'accusaient d'être désordonné. Pour éviter leurs remontrances, que je percevais comme des doléances, mais que je finissais même par considérer avec quelque agacement comme des jérémiades, j'avais trouvé ce stratagème qui me semblait relever de la plus haute ingéniosité. J'offrais à mes précieux compagnons de papier et de rêve une vie nomade, qui d'ailleurs sans doute, loin de leur déplaire, leur permettait avec mon aide de fuir devant leurs poursuivants et de semer dans les esprits retors de ces derniers un trouble qui ne pouvait à coup sûr qu'affaiblir leur trop intransigeante attitude. Quand ils s'entêtaient au-delà de ce que je considérais comme le raisonnable, je réagissais aussi vigoureusement que possible et je me promettais de faire un bouclier de mon corps tout entier en cas d'attaque surprise et sournoise. Seulement dans un premier temps, à l'instar d'un général en chef serein mais attentif, j'abritais une partie de mon irremplaçable trésor dans le salon et l'autre simultanément dans la salle de séjour. Cela trompait la vigilance de l'ennemi qui n'avait d'égal que sa pusillanimité. Car le volume de mes documents étant alors réparti sur ces deux champs stratégiques, il s'imaginait que je m'étais rendu en me livrant à une destruction partielle de mes troupes. M'est avis, à tout prendre, qu'en réalité, il feignait seulement de croire en ma défaite. Car, malgré leur intolérance foncière, il me faut bien reconnaître qu'ils n'étaient pas plus sots que la bonne moyenne des grandes personnes. Mais je me disais tout de même que, si au lieu de se livrer à de si stériles combats, ils s'étaient un tant soit peu intéressés à ces innocents écrits, ils auraient sans doute découvert dans certaines bonnes feuilles le moyen de s'aimer sans faire un enfant à tout bout de champ. Car j'avais déjà 11 frères et sœurs. Et comme maman était très généreuse, je craignais qu'un de ces 4 matins, elle ne prenne l'initiative d'en pondre un 13e à la douzaine. La maison étant trop petite pour une si nombreuse fratrie, nous n'avions de chambre que pour 6 d'entre nous, quels que soient les aménagements successifs envisagés et expérimentés par nos parents. Alors tous les soirs, après le dîner, et sous le prétexte plus ou moins fallacieux de nous emmener faire une petite promenade digestive, alors qu'elle aurait pu se contenter de nous faire avaler une infusion de bourdaine, maman nous entraînait dans la forêt voisine et elle trouvait toujours un moyen de perdre en alternance une moitié d'entre nous. De vous à moi, Je suis pourtant sûr qu'elle avait passé un accord avec quelque bon génie des bois afin que nous ne courions aucun risque majeur, ni même mineur. Le lendemain, dès Potron-Minet, elle revenait chercher sa progéniture égarée, car elle savait très bien où la trouver, et elle nous parlait longuement de l'épouvantable angoisse qui l'avait oppressée toute la nuit. À croire qu'elle ne fermait jamais l'œil. Nous faisions semblant d'être dupes, et elle en paraissait ravie. Lors de ces retrouvailles quotidiennes, elle nous cajolait à n'en point finir, nous baisant en godinette, nous funambulant la crête, nous gobant la tartiflette. Et ces effusions ne manquaient pas d'illuminer notre journée tout entière. Aujourd'hui, je me dis souvent que l'exiguïté de la maison n'était qu'un faux prétexte et que seule son inépuisable tendresse justifiait ses séparations momentanées et quotidiennes. Quant à papa, lui, le soir, pendant le repas familial et à l'orée de la promenade fatidique, il nous disait de mémoire le poème de Rudyard Kipling « Tu seras un homme, mon fils », tandis que les garçons étaient émus jusqu'aux larmes, que les petites filles ouvraient des yeux ronds comme des pommes, et alors que maman reniflait discrètement chaque fois que le récitant reprenait son souffle. Nous avions vite pris goût à nos nuits passées à la Belle Étoile, et dois-je le dire, je les préférais nettement à la tisane de Bourdaine. Nos premières angoisses estompées, une franche amitié s'était établie entre nous et le peuple de la forêt, si riche et si diversifié, tellement affectueux et plein de drôleries. Les innombrables échanges, non seulement sonores, mais aussi visuels, tactiles et olfactifs, permettant à tout ce monde des bêtes, des plantes et des arbres de se parler, de se comprendre, de s'aimer et parfois de se haïr, de se fondre en un tout vivant, nous était devenu familier. Nous découvrions cette vie nocturne plus riche encore, plus animée, plus émouvante que celle du plein soleil ou du plein jour. Dès notre deuxième nuit dans les bois, les trilles des rossignols nous avait offert un abri sonore qui nous protégeait du froid. Et le duvet des lapereaux nous faisait une couche douillette sur laquelle, mêlant nos jambes et nos bras, nous nous entresserrions avec délices et volupté. Mille bruits inconnus jusqu'alors de nos jeunes oreilles naissaient à nous dans ce monde de la nature, depuis le bavardage des insectes jusqu'à la croissance des herbes, des fleurs, des fruits sauvages et des arbustes, et il peuplait notre paisible et innocent sommeil de songes irisés, dans lesquels se glissaient parfois des images plus inquiétantes. Nous découvrions aussi, dans l'obscure immensité du ciel, des mondes éloignés qui se multipliaient à l'infini, comme autant de milliards de petites bougies qui semblaient nous faire signe, et dont chacune des flammes scintillait, selon la nuit et la saison, d'une plus ou moins vive brillance. Je crois que c'est de ce temps que je commençais à me poser la question, confusément bien sûr, de la place d'un petit garçon et d'une petite fille dans l'univers. Rentrer chez nous, je relatais en quelques notes ce qui m'avait le plus fasciné au cours de la nuit, et ainsi, mon trésor de papier s'enrichissait encore. Un jour, je décidai que lorsque je serai un peu plus grand, je demanderai à mes amis de la forêt de chercher avec moi, à l'instar du grand Maulne, la belle jeune fille que nous n'avions jamais vue ni les uns ni les autres, mais qui devait m'attendre là et avec qui nous rêverions la vie entière. Elle ressemblerait un peu, pas trop, mais enfin quand même un peu, à maman. Je ferai tout ce qu'elle voudrait, pourvu qu'elle me laisse compléter sans cesse mon trésor de papier. Et puis, au fil des années, les sorties nocturnes se sont espacées. Ce n'est pas tant que la maison se soit agrandie, mais bien plutôt que le temps passant, les garçons et les filles allèrent ailleurs vivre leur vie. Les tourmenteurs d'antan de mes précieux papiers s'en allèrent à leur tour dans des ailleurs inconnus, des lieux où règne peut-être aussi la sérénité indicible de nos nuits d'autrefois. Avec la fille des bois, j'y pense sans tristesse, mais non sans une pointe de nostalgie qui parfois me taraude le cœur. Que sont devenues ces fleurs du temps qui passe? Mais, au fait, ont-elles existé ailleurs que dans mes trésors de papier?